On va commencer par une petite précision, parce que nous en avons discuté tous ensemble. Nous n'allons pas parler de récits celtiques, mais d'imaginaire celtique. Parce que le récit celtique ne s'écrit pas. Voilà.
Ça fait mal, hein, direct. Ouais.
Et ça fera partie des choses dont on va parler. Et donc, nous avons donc autour de nous, autour de moi, Jean-Philippe Jaworski, qui, après le grand succès de Juana Vera et de Gagner la guerre, un univers baroque, un univers foisonnant, s'est mis en danger en s'intéressant à une épopée beaucoup moins, comment dire, avec moins de rebondissements, et totalement ancrée dans l'histoire. Et ça a fait toutes sortes de réactions, mais surtout il y a eu il démontre toute sa justesse et toute son érudition. Crystal comme rubis, illustratrice depuis bien longtemps, connue et reconnue, qui a fait une des affiches du festival, s'est lancée dans son propre monde, issu de ces mythes fondateurs de cette civilisation, avec deux albums qui s'appellent tous les deux Hogan et qui mélangent l'imaginaire et la fidélité au mythe. Olivier Perru, jeune auteur de fantasy atypique, en fait, a écrit un bouquin qui s'appelle Druid, mais qui est essentiellement exempt d'imaginaire celtique, puisqu'il les a mis à sa sauce, tout en touchant régulièrement à des choses qui en font partie. Alors, je vais commencer par vous demander, surtout, d'où vous est venu cet intérêt pour cette civilisation antique.
C'est une question qui n'est pas si simple que ça. Disons que je pense que, à l'origine, enfin, auteur, illustrateur, on a tous une sensibilité particulière au mythe, dans le sens où le mythe est ce qui traverse l'ensemble des histoires, et même les histoires contemporaines. En particulier, j'oserais dire, quand on est un écrivain de fantasy, ou un illustrateur dans la fantasy. Bon, sans parler de Tolkien, évidemment, je veux dire, là, pour qui c'est évident. Mais je pense que toute la création de fantasy aujourd'hui fait appel quand même à des archétypes mythiques, quels qu'ils soient. Et d'une certaine manière, même si je suis essentiellement dans l'image, et que bon, la plume, c'est secondaire, j'ai pas échappé à ça. J'ai la passion du mythe, ma première rencontre... gamine finalement avec l'imaginaire fondateur, ça a été au travers des mythes. Et c'est longtemps après que j'ai découvert l'univers celte, probablement parce qu'on n'en savait pas grand-chose. Donc sortie de Astérix et ses clichés, qui ne disaient pas grand-chose, parce que c'est très sympathique, mais ce n'était pas du même ressort. Donc j'ai mis un certain temps finalement avant de connaître ce qu'était l'univers celte. Et bizarrement, ça s'est fait par étapes. J'allais dire un peu comme on retire les plures d'un oignon pour arriver au cœur. Je suis partie de quelque chose qui était vraiment des images d'Épinal, c'est le cas de le dire, en passant d'ailleurs par différents médias. Je pense par exemple à toute la tradition de la peinture pré-raphaélite qu'on voit dans la Tate Gallery à Londres, des gens comme Waterhouse par exemple, qui ont fait La Dame d'Escalot, etc.
Bursley, par exemple.
Oui, aussi. Exactement, voilà. Et donc, que ce soit l'univers graphique ou l'univers littéraire, au travers évidemment de la saga arthurienne réécrite et recomposée.
Dont on disait tout à l'heure d'ailleurs que c'est l'un des seuls véritables récits celtiques qui nous restent, puisqu'il continue à évoluer depuis 10 siècles.
Oui, je me permettrai de mettre un bémol là tout à l'heure sur cette chose-là. Mais disons que c'est vrai que donc par pelures successives, je suis arrivée finalement à éplucher ce qui pouvait être du fantasme et ce qui était vraiment le cœur peut-être plus véridique et plus fidèle à l'histoire. Voilà, grosso modo, je pense qu'on pourra étayer après.
C'est difficile de dire mieux. Puisque... Non, mais je pense que nous tous, peut-être Jean-Philippe un peu moins, parce que c'est un savant, mais on a tous baigné quelque part dans un espèce d'imaginaire collectif, dans ce qu'on a pu lire, dans ce qu'on a pu voir. Ce que tu disais sur la prégnance du mythe, enfin des mythes qui sont millénaires, multimillénaires, et qui en fait traversent les époques et sont réécrits, sont changés, sont modifiés, sont parfois même identiques en fonction des mythologies. Et arrive jusqu'à nous, transformé, et j'allais dire quasiment tout est celtique ou celtisant, j'ai pas le droit de dire ça, mais il y a en fait des touches de celtique dans plein de choses, que ce soit dans l'imaginaire, dans la vraie vie, dans l'histoire, et quand on s'y intéresse, quand on fait l'effort conscient de s'y intéresser, comme tu disais, on doit peler cet oignon et se dire, tiens, mais c'est quoi vraiment la culture celte ? Parce que ce soit la mythologie nordique qui, moi, me passionne, ou la vraie mythologie donc gauloise, peut-être Jean-Philippe en parlera mieux, mais vous avez plein de choses en fait qui sont là depuis des millénaires et qui arrivent à nous transformer. Et aujourd'hui, alors c'est des clichés, c'est quand on parle d'Astérix, évidemment on pense aux druides Panoramix ou les Gaulois juste résistants, et tout ça fait que ça rentre dans notre inconscient. Nous on le réécrit, on le retraduit, et il faut faire l'effort de s'intéresser vraiment à la culture celte, même si je suis pas un spécialiste, je connais quelques trucs. Le fait qu'ils aient jamais écrit, enfin, qui n'écrivaient pas, en fait, ils avaient une vraie tradition orale, fait que tout ça est arrivé à nous déformé. Et aujourd'hui, donc cette déformation fait qu'on s'est approprié un petit peu l'essence de la culture celte, je ne sais pas si on peut dire ça exactement comme ça, pour le retraduire dans nos diverses œuvres, que ce soit les images, les livres, les bandes dessinées, les romans.
Oui, pour évoquer... Les raisons qui m'ont poussé, moi, dans les bras des mythes celtes, il y a eu deux événements qui remontent à très loin, en fait, parce qu'ils remontent à l'enfance. Premièrement, la découverte des textes, alors bien sûr, d'adaptation pour les enfants, des textes arthuriens, qui m'ont plongé très tôt dans un univers de la matière, dans l'univers de la matière de Bretagne. Et puis, un deuxième événement, quand j'avais 12 ans, j'avais un copain, pas très loin d'ici, près de Nancy, qui m'avait entraîné dans une balade en forêt en me disant, viens, dans ce coin-là, il y a un camp romain. Alors j'étais un peu perplexe en me disant, au bout de 2000 ans, on ne verra rien du camp romain. En fait, il ne s'agissait pas du tout d'un camp romain. C'était le nom qu'on donnait depuis le XVIIIe siècle à cet endroit, qui est la cité d'Afrique au-dessus de Ludre, à environ une dizaine de kilomètres de Nancy. Il s'agissait d'un oppidum celtique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et j'avais été frappé par le fait que, en fait, les murailles sont toujours visibles dans le paysage. Ce sont de grands talus, mais elles sont très visibles dans le paysage. Et ça m'avait vraiment frappé. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand j'étais étudiant, participé en tant que fouilleur bénévole pendant quelques semaines à une campagne de fouilles sur ce site. Et puis, bon, j'avais pas découvert grand-chose. Hein. J'avais découvert des orangers, des tessons de poterie noire, en plus d'une poterie très, très primitive. Hein. Mais ma curiosité était vraiment piquée et du coup j'ai continué à suivre les publications des découvertes des archéologues et des linguistes sur le monde celtique de l'Antiquité continentale. On sait un certain nombre de choses sur le monde celtique insulaire, c'est-à-dire du pays de Galles, d'Irlande, d'Écosse, mais on savait en tout cas nettement moins de choses sur le monde celtique continental de l'Antiquité. Et en fait, pendant des années, j'ai suivi ces publications et j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un terrain romanesque à explorer. Là. Parce qu'on découvrait des choses sur des sujets finalement qui étaient très peu exploités dans la fiction.
Mais quelle relation entretenez-vous avec cet imaginaire particulier, avec cette civilisation particulière ?
Je vais pas revenir sur Astérix tout le temps, mais je pense qu'on l'a tous lu. Et je crois que la première relation qu'on a avec la culture celte quand on est gamin, c'est Astérix. Après, on fait un vrai effort pour s'y intéresser, pour découvrir et pour s'enrichir. Et ce qui est hyper intéressant quand on aime l'histoire, c'est de se dire que je crois qu'un des premiers témoignages écrits de la culture celte, c'est La guerre des Gaules de Jules César. Je sais pas si tu confirmes ou pas.
C'est le plus grand. Après, il y a des témoignages fragmentaires.
Ah, je savais que j'allais me faire reprendre.
Mais tu as tout à fait raison. Hein. Le témoignage le plus abouti qu'on ait sur la culture celte, c'est la guerre des Gaules.
Et du coup, moi, c'est un livre qui est très court, qui est écrit vraiment de façon très concise et qui est fascinant parce que voilà, quand Jules César s'occupait de conquérir les Gaules, il tuait à tout va, c'était une abomination. Et en fait, à chaque fois qu'il allait à la rencontre des druides ou des gaulois de l'époque, il y avait des petits détails qui étaient très intéressants sur leur façon de vivre, de communiquer, leur rituel, sur leur ville, sur leur société. Et moi, je crois que je l'ai lu assez jeune et je me suis dit, on connaît les Romains, on connaît plein d'autres cultures européennes ou plus anciennes. Et par contre, sur les Celtes, on a quoi ? On a trois lignes de temps en temps qui parlaient de ça. Et quand j'étais ado, alors on va dire, j'étais fasciné par tout ce qui était fantasy, Tolkien et compagnie. Et les Celtes, pour le peu en fait que j'en savais, il y avait un espèce de mystère, c'est-à-dire qui c'était vraiment, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment, pourquoi ils n'ont rien laissé. Alors il y avait cette tradition orale, mais il y a aussi le fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ça c'est très connu. Et que du coup, ils étaient considérés comme des barbares par on va dire, la République romaine, ou enfin la Rome antique. Et quand on fait l'effort en fait, de passer en dessous, on a pu découvrir qu'en fait, c'était des gens qui construisaient vraiment, qui avaient une vraie vision sur le futur, qui voyageaient beaucoup, je crois. Et donc, en fait, les Celtes, on rattache ça peut-être aux Gaulois, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ils ont beaucoup voyagé, que ce soit de la Grèce, en Britannia à l'époque. Je crois même qu'ils ont des connexions avec les Brahmanes indiens. Et en fait, du coup, c'est une espèce de culture légendaire dont on sait peu de choses. Et moi, c'est ça qui m'a toujours travaillé. Et après, ça a été traduit, alors peut-être parce que je suis un garçon, mais quand j'ai vu Braveheart, alors aucun rapport avec les Celtes, mais il y a... peut-être pas direct, mais en fait, on sent ce truc, cette espèce il y a une espèce de force chez, donc quand vous voyez des gars tout nus avec des peintures bleues qui hurlent liberté, vous dites un Celte c'est ça quoi. Et moi quand j'ai vu Braveheart pour la première fois, je me suis dit mais ça tape. Et c'était presque, alors au-delà du film et du message et tout, il y avait un truc très très fort. Et c'est peut-être à partir de là que je me suis réintéressé un peu à la culture celte au-delà du cliché. Et c'est ça qui est très fort, je trouve, c'est qu'on ne sait rien ou peu de choses d'eux. Et pourtant, c'est toujours là, ça a traversé plein d'époques. Et aujourd'hui, il faut que des historiens ou des archéologues et tout ça ressortent des détails pointus, précis, pour savoir qui c'était ces gens-là, qu'on a, pas spolié, mais en tout cas, dont on a réécrit un petit peu l'histoire, la culture.
On attend toujours, fille garçon. Bon, en ce qui me concerne, y a un rapport à la fois sentimental et intellectuel. Sentimental parce que je crois, tout à l'heure on a parlé des contes dans la table ronde d'avant, mais il est vrai que quelque part les archétypes de notre culture nous habitent. Il va être difficile d'intégrer des archétypes de la culture chinoise ou japonaise, vous voyez. Et quelque part, c'est vrai que même si on ne connaît rien, ou pas grand chose, en tout cas on découvre de plus en plus de choses, mais ça reste très lacunaire. Si notre connaissance des Celtes à l'heure actuelle est très lacunaire, je reste persuadée que le fait qu'il y ait un rapport au terroir, le pagus notamment, quelque part, ça facilite aussi une compréhension intrinsèque de certaines choses. Pour faire simple, par exemple, on sait que toutes les religions monothéistes en général naissent dans le désert, c'est dans les endroits où il y a effectivement où c'est très vaste, etc. Les endroits où il y a de la forêt ou des paysages très accidentés, très différents, donnent plus facilement lieu au polythéisme, font plus facilement naître des polythéismes. Donc maintenant, en dehors de toute appartenance religieuse, etc., c'est intéressant de voir que quelque part, en étant toujours dans ces paysages-là, je pense qu'il y a des choses qui sont des ressorts inconscients qui peuvent encore fonctionner. Alors ça, c'est pour le côté affectif. Maintenant, le côté intellectuel, c'est de l'ordre de la fascination. L'envie de découvrir, l'envie de creuser, et surtout l'envie, évidemment très modeste, parce que je me pose comme un maillon, mais l'envie quelque part de participer à faire ressortir quelque chose de cette histoire celte. Alors j'ai bien conscience que quelque part, parce que justement on sait peu de choses, et puis parce que l'humain est faible et qu'on a nos erreurs, je le fais certainement de façon lacunaire aussi, certainement de façon erronée, mais j'espère en fait qu'en glanant ici et là des petites choses sur leur culture et en les faisant passer par le filtre quelque part de mode actuelle, finalement d'un regard qu'on a sur la fantaisie, sur la société, sur notre culture contemporaine, que ça pourra permettre au lecteur lambda d'ouvrir des portes et d'avoir envie de savoir ce qui se passe derrière et d'avoir envie de creuser et éventuellement d'ouvrir après des livres historiques pour voir par lui-même.
Oui, moi je me retrouve bien dans ce double rapport qui est à la fois affectif et intellectuel au Celte. Ce qui m'amène d'ailleurs à un troisième rapport, c'est un rapport patrimonial au Celte. Sur le plan affectif, moi je le ressens très fort sur des lieux antiques. Alors je parlais de ce site pas très loin d'ici à Ludres, la cité d'Afrique. Quand on va sur un site antique, je pense alors à un site qui est splendide, qui est le Mont Beuvray, où se trouvait Bibracte, la capitale des Éduins. En fait, on ne voit pas grand-chose a priori. On ne voit quasiment aucune trace. Pour le néophyte, on ne voit pas de trace de l'occupation. Hein. On voit un bassin à Bibracte, hein, et puis les archéologues ont mis en valeur une vieille cave, il me semble, et puis des murs, mais qui sont des murs gallo-romains, qui ne sont plus des murs celtiques. Mais le lieu, lui, pour peu qu'on se laisse imprégner par le lieu, il est d'une force extraordinaire. Alors, il y a une force extraordinaire pour une raison simple, c'est que très souvent, les Celtes vont construire leurs oppidas, donc leurs cités, sur des lieux en hauteur, avec un espace autour d'eux donne une impression, qui donne une respiration, en fait, qui est assez extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent sur des sites de hauteur, puisqu'il y a aussi des sites dans les plaines, hein, en particulier dans les méandres des rivières, mais souvent, ceux-là, ils nous sont davantage masqué par l'occupation humaine actuelle. Donc il y a déjà un rapport qui est un rapport quasiment sensible, affectif au terrain qui a été occupé par le monde celtique. Et puis il y a aussi une relation intellectuelle. Il y a une relation intellectuelle, alors c'est le défi en quelque sorte d'essayer de retrouver dans notre société, dans notre culture, l'héritage celtique. Et en fait, il est extrêmement présent, c'est là où j'en arrive même au volet patrimonial, hein. Il est très présent, par exemple, dans les noms du pays que nous habitons. Nous sommes dans le département des Vosges, c'est un nom celtique. C'est le Osegus latin, Osegos probablement celtique, c'est le nom d'un dieu. Pas très loin d'ici, on a des villes qui s'appellent Metz ou Verdun, ce sont des noms celtiques. Metz, c'est la ville des Médiomatriki, de ceux qui vivent entre les deux rivières. Verdun, c'est tout simplement Werdunon, la grande forteresse. La capitale de la France n'a pas un nom français, mais un nom celtique. Paris, la ville des Parisis, en fait, c'est la ville de ceux du Chaudron. Du Chaudron, à prendre sans doute comme un symbole religieux, mythologique, nourricier. Et puis en plus, derrière le Chaudron, il y a tout un symbolisme de la connaissance. Et en fait, on est en quelque sorte pétri par une culture qui porte l'héritage du monde celtique, et on n'en est plus conscient parce que ça a été effacé par ensuite la culture latine, bien sûr, puis l'apport des cultures germaniques. Mais en fait, on a énormément d'héritage, et c'est assez fascinant dans des choses qui sont aussi familières finalement que des noms tout à fait familiers comme Metz ou Paris. C'est assez fascinant de se dire que finalement, c'est l'héritage de cette civilisation celtique. Alors, je prends des exemples onomastiques, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. On parlait de religion. Les Celtes sont à la fois sont des païens, certes, mais on peut se demander dans quelle mesure ils n'étaient pas en train d'inventer le monothéisme. Et ils ont aussi inventé la Trinité, du reste, avant l'arrivée de cette religion sémite qui était le christianisme. Donc, il y a un certain nombre, à tel point, du reste, hein, qu'on a un certain nombre de saintes ou de saints. Il y a par exemple dans les églises lorraines, il y a un certain nombre de saints céphalophores, sont des saints qui portent leur tête coupée. Alors encore, hein, à Paris, on a Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un saint qui s'est fait martyriser, puis s'est relevé, il a ramassé sa tête, il s'est promené avec sur quelques centaines de mètres. Ça, c'est un motif celtique. Ça renvoie au culte des têtes coupées de l'Antiquité. Donc on a énormément de choses qui sont passées dans le christianisme, dans le nom des lieux, dans le nom des rivières, qui nous viennent de cette époque-là. Et c'est assez fascinant d'essayer d'aller rechercher cet héritage très ancien. Ce qui me fait dire aussi que c'est patrimonial. Au niveau patrimonial, j'ajouterai une chose. Ce qui est intéressant dans l'histoire, de l'histoire des Celtes, c'est de se demander quand est-ce que les Celtes ont intéressé les Français. ils ont intéressé les Français à des périodes charnières de l'histoire de France. Ils ont intéressé les Français au XVIe siècle pendant les guerres de religion, pendant une période de troubles. Ils ont intéressé les Français sous la Révolution française, parce que le Celte devenait l'ancêtre de l'homme du peuple, par opposition aux nobles qui étaient le descendant des Germains, des envahisseurs. Et ils ont intéressé les Français après la perte de l'Alsace-Lorraine, quand on avait soif de revanche et qu'on s'est identifié aux Gaulois pour s'opposer aux Germains. C'est-à-dire que dans la conscience identitaire française, le Celte est un repère auquel on se réfère quand on traverse une crise d'identité. Ce qui signifie en fait qu'il est vraiment une des pièces fondatrices de l'identité française.
Bien, justement, vous nous dites tous que on ne trouve pas beaucoup de références, on a du mal à trouver du matériel écrit sur les Celtes, surtout en France, en fait, où pendant très longtemps, il n'y avait que les éditions Ouest-France qui publiaient des livres très, très, très intéressants et documentés par les plus grands spécialistes sur le monde celte, la société, les croyances, etc., etc. Alors que dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de recherches et de textes qui existent, de cartes qui ont été dressées par les archéologues et qui peuvent montrer les déplacements de population et des tas de choses comme ça. Alors, quelles sont vos sources ?
Alors, les sources sont éparses. Elles sont très éparses, en fait. Textuelles, essentiellement. Je me méfie des réécritures pseudo-universitaires, parce qu'il y a beaucoup de... Il faut vraiment trier le grain de livret, quoi. Donc, c'est un petit peu délicat. Maintenant, d'une certaine manière, ce que j'écris ne se veut pas non plus être historiquement vrai. Donc on peut se laisser une marge. C'est-à-dire que c'est vraiment, à la fois j'essaie d'être fidèle par rapport au cœur, au noyau, ce qui là effectivement implique des recherches, et autant je me permets aussi une certaine liberté. Mais non, je ne me cache pas d'ailleurs, je précise qu'il y a une part effectivement d'imaginaire autour, heureusement. Maintenant, la première source à laquelle je me réfère sont surtout les contes. Parce qu'en eux-mêmes, c'est une tradition directe, donc on n'a pas besoin de broder dessus. Bien sûr, il y a des clés qui nous échappent aujourd'hui. C'est se replonger, par exemple, dans le Mabinogion ou des choses comme ça. C'est reste un exercice intellectuel compliqué parce que c'est foisonnant d'images, c'est foisonnant de symboles. On se rend bien compte à certains moments qu'on passe à côté de certaines choses. Mais disons que je pense qu'il y a une bonne part d'inconscient aussi dans le travail qu'on peut faire sur ce genre de choses, c'est-à-dire quand on est en possession d'un texte comme ça ancien et qu'on le lit, on le relit, on s'en imprègne. Au bout d'un temps, il y a des choses qui se mettent en place et une impression d'une macrostructure, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le conte pour lui-même, mais plus un fonctionnement sociétal. Je ne sais pas si c'est clair dans la façon de dire. Je veux dire, à la fois, par exemple, les contes, quand on regarde la matière irlandaise, c'est à la fois foisonnant et complexe et brillant. Et en même temps, on arrive à retrouver des choses, une sorte de trame, une sorte à la fois de simplicité dans la façon de penser, d'honnêteté. Et c'est un petit peu ça qui donne le ton. Voilà, grosso modo.
En fait, la question, c'est vraiment quelles sont vos sources et où abreuvez-vous votre imaginaire ? Donc, tu y as répondu.
Oui, parce que l'imaginaire et les lectures, c'est... Voilà.
Bah alors, moi, je dirais de la même manière, mais je n'ai pas de tête. Et donc, en fait, quand j'acquiers des connaissances sur un sujet, c'est un savoir ponctuel. Quand j'ai écrit Druide ou d'autres bouquins, je m'intéressais donc aux Celtes de façon très large. Et alors, pour trouver donc des vraies références, je ne suis pas du tout universitaire dans l'esprit où je vais lire des tas d'auteurs ou de conférenciers. Je me souviens, pour en apprendre plus sur les druides, avoir écouté quelques conférences qu'on peut trouver sur Internet qui sont très intéressantes, tenues par des spécialistes qui ont des points de vue en plus des fois opposés. Donc, du coup, vous avez des informations contradictoires. Et alors, j'en ai écouté des heures. J'en ai retenu peut-être 3 minutes. Mais quelque part, ces 3 minutes, c'est l'essentiel pour moi. Donc, c'était les druides. Et donc j'ai appris quelques infos essentielles sur les druides, dont je ne savais finalement rien. Et ça, c'est les références, on va dire, techniques, pour ne pas contredire une vérité historique sur un sujet qui me tenait à cœur. Après, il y a les références qui fonctionnent plus par imprégnation, c'est-à-dire que je pense à la matière de Bretagne, mettons, quand vous lisez des contes, des livres de contes, des bouquins illustrés, petit à petit, ça se passe sur des années, vous arrivez à acquérir une espèce de connaissance nébuleuse des diverses mythologies, irlandaises, nordiques, gauloises. Et tout ça fait qu'au bout du compte, on est nourri. En tout cas pour moi, je me suis nourri depuis longtemps de plein de petits détails et je retiens jamais vraiment les choses très techniques. Par contre, voilà, la petite magie qui était là dans la matière de Bretagne depuis très longtemps et qui est toujours accessible, que ce soit dans les livres, les bandes dessinées, les romans ou alors les conférenciers qui en parlent vraiment avec passion. Moi, mes références sont là. Mais après, voilà, je ne suis pas un technicien, je ne vais pas chercher non plus les petits détails et tout. Ce que je cherche, c'est plutôt la magie. Essayer de trouver les petites choses magiques qui vont rentrer facilement en moi, qui vont s'accrocher et quelque part qui me permettront plus tard, quand j'écrirai ou dessinerai. Cette petite magie que j'ai saisie par endroits depuis des années, elle s'ancre en moi et elle ressort dans divers bouquins.
Moi, je procède un peu des deux façons. D'une part, effectivement, et je trouve que c'est important de laisser s'exprimer une espèce d'inconscient collectif qui circule, parce que les Celtes sont séduisants et on les retrouve dans le domaine de l'illustration, dans le domaine du conte, dans le domaine du cinéma. Il y a un certain nombre de motifs, en fait, qu'on retrouve qui sont réexploités. Et c'est aussi extrêmement enrichissant de se laisser porter par ces motifs, parce que ces motifs, ce sont aussi ceux, finalement, que le public attend. Parce que c'est ceux qui séduisent le public et par conséquent c'est ce que le public voudra retrouver. Alors à côté de ça je travaille aussi de façon disons de façon un peu plus austère. Depuis environ 30-40 ans en France il y a vraiment un approfondissement des connaissances sur le monde celtique. Alors je lis effectivement des auteurs anglo-saxons, je pense par exemple à Barry Cunliffe, mais je lis aussi pas mal d'auteurs français, que ce soit des historiens comme Christian Goudineau ou Venceslas Kruta, ou des archéologues, je pense à Olivier Bouchenschutz, je pense à Jean-Louis Bruno. Des historiens, des archéologues qui sont parfois en désaccord. Un archéologue et dans une moindre mesure historien comme Jean-Louis Bruno, que je trouve très intéressant, a extrêmement discuté, en particulier pour ses théories sur les religions gauloises, au sein de la communauté scientifique. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors, c'est probablement dû au fait que dans les années 80, il y a eu d'une part le développement de l'archéologie de sauvetage, qui fait qu'on a découvert énormément de sites, tout simplement en perçant des routes, en perçant des voies de TGV. On trouve des sites de toutes les époques, on trouve entre autres des sites celtiques. Et puis, d'autre part, on a eu dans les années 80 un président, François Mitterrand, qui était aussi très intéressé par le monde celtique et qui a poussé un petit peu la recherche dans ce domaine-là. Ce qui fait que depuis une trentaine d'années, on a pas mal de chercheurs et de chercheurs d'un bon niveau qui publient des choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais chercher aussi... On a des linguistes. On a des linguistes qui progressent très nettement sur la connaissance de la langue gauloise en faisant un travail de fourmi. Il s'agit de répertorier toutes les stèles. En général, c'est de l'époque gallo-romaine. Parfois, ce sont des stèles plus anciennes autour de Marseille, dans le sud de la France. Toutes les stèles qui sont écrites... soit en gallo-romain, c'est-à-dire en gaulois avec l'alphabet latin, soit en gallo-grec, c'est-à-dire en gaulois mais avec un alphabet grec. Souvent, ce sont des textes très très courts. Bidule, fils de machin, a construit ce bâtiment. Machin a donné à tel dieu, point. Mais en faisant un relevé exhaustif de toutes ces inscriptions, on finit graduellement par retrouver le vocabulaire. Et à retrouver une partie des règles de grammaire ou des conjugaisons de la langue. Alors bon, ce sont des gens comme Xavier Delamarre, par exemple, qui travaillent sur la linguistique. Alors je fouille aussi pas mal chez eux.
Mais justement, la civilisation celte était une civilisation qui connaissait l'écrit, qui avait son propre alphabet, mais qui refusait d'écrire et n'écrivait en fait que les choses définitives. Certains contrats, les stèles, mais par contre, tout ce qui était l'histoire, les mythes, ne devait surtout pas être écrit parce qu'il devait pouvoir continuer à évoluer selon l'interlocuteur, selon la personne qui raconte, selon les circonstances et selon le temps passé depuis le moment où on a commencé à raconter cette histoire-là. Et donc ma question c'est comment écrire une civilisation qui a refusé l'écrit ?
En ce qui me concerne, moi, j'ai contourné le problème avec un trucage un peu grossier. J'écris, mais je laisse la parole à un narrateur qui est censé raconter à l'oral. Donc, il s'adresse à un autre personnage qui n'intervient pas, mais cet autre personnage, c'est en fait un marchand grec. Donc, c'est sous-entendu dans le roman, mais de façon sous-entendue, l'histoire est racontée de façon orale par un Celte à un témoin grec qui, étant un homme de l'écrit, lui, aura sans doute posé par écrit le récit.
Alors moi, je dirais qu'il est vrai que les Celtes n'étaient pas une civilisation de l'écrit, mais nous le sommes. Et ce qui m'importe, en fait, c'est de ne pas trahir l'esprit. L'esprit, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment l'esprit du barde. C'est celui qui va utiliser, c'est un peu mon dada, mais c'est aussi le sujet du livre pour ça, d'utiliser en fait les symboles qui vont parler à son époque. Quand le barde racontait une histoire mythologique, par exemple, il s'agissait de faire comme plus tard les conteurs Perrault, Grimm, etc., de transmettre un bon sens, de transmettre aussi des interdits, de transmettre des précautions, des conseils. Et donc, la population était tout à fait à l'aise avec ça, c'est-à-dire de finalement se laisser imprégner de l'histoire, du mythe, du conte, pour en retirer une sagesse populaire. Et quelque part, nous, dans notre civilisation, on sait qu'on peut s'adresser au plus grand nombre, y compris justement la fantaisie, par le biais de la fantaisie qui est très populaire. Et transmettre aujourd'hui peut passer par le biais du livre sans, à mon avis, être une trahison, même quand il s'agit d'un sujet celtique.
Bah, j'irai dans le sens de Cristal et je rajouterai que les Celtes donc n'écrivaient pas ce qui n'était pas définitif. Quelque part, le fait de nous de nous approprier leur culture et de la transformer, c'est un respect de ce désir de ne pas écrire ce qui peut être changé. Et à leur époque, je pense que les bardes, comme tu disais, racontaient pour plein de raisons diverses et variées, mais il y avait aussi le plaisir du mythe de faire rire les enfants, de faire rêver les enfants ou les grands. Et donc c'était une époque où peut-être le temps était plus long, où les journées étaient occupées différemment et le fait de raconter des histoires était quelque chose d'important pour la communauté, je pense aux enfants plus particulièrement. Aujourd'hui, ce temps-là n'existe plus. Tout le monde travaille, court à droite, à gauche. Et les livres, en fait, et donc leurs auteurs, sont peut-être les bardes modernes, si j'ose. Et comme ce temps n'existe plus, la façon la plus pragmatique qu'on a de raconter des histoires, c'est d'écrire des livres. On ne peut pas tous vous réunir et vous dire « Demain, on se retrouve sur une place et puis pendant une journée, vous acceptez de perdre une journée et on vous raconte des histoires. » Voilà, ce temps-là est perdu. Et donc, les livres, quelque part, alors, on écrit les histoires, mais je ne crois pas que ce soit trahir, en fait, l'essence de la culture celte qui refusait d'écrire. Que nous d'écrire, puisque voilà, on raconte les histoires que eux racontaient. Alors on les raconte d'une autre façon, et c'est peut-être là que du coup, voilà, je crois que nos histoires respectent ce vœu-là.
C'est peut-être aussi lié à une conception différente de la mémoire. Dans le monde celtique, en fait, la mémoire est essentiellement le fruit du bouche à oreille. Tout l'enseignement est oral. Et le barde, il est chargé de la tradition. En fait, le barde, c'est le livre. C'est celui qui est chargé de toute la tradition et il a un poids extrêmement fort dans la société. Donc là, il faut vraiment oublier Assurance Tourix. Hein, parce que dans le monde celtique, la façon dont est traité Assurance Tourix est absolument inconcevable. On ne va pas porter la main sur le barde. Au contraire, le barde peut s'interposer entre deux troupes en train de combattre pour essayer d'imposer au moins une trêve. Parce qu'il est quasiment intouchable, étant donné qu'il est plus qu'un homme, il est la tradition. Et il a non seulement il est non seulement en charge de la mémoire. Alors chez nous, pendant des siècles, ça a été le livre qui a été en charge de la mémoire. Hein, et c'est pour ça que finalement, le fait qu'on écrive, c'est peut-être détourner la matière celtique, mais c'est aussi sauver la mémoire par un autre biais. Mais le barde est investi d'une mission qui est vraiment structurante sur le plan social, puisqu'il est aussi chargé de chanter les louanges de ceux qui sont des acteurs positifs dans la société, ou de chanter la satire de ceux qui ont commis une faute. C'est-à-dire qu'au-delà d'être des transmetteurs de la mémoire, ils sont ceux qui veillent à la cohésion de la société. La satire chantée par un barde, c'est quelque chose de terrible. Il vient vous la chanter droit dans les yeux, en public. Et c'est une malédiction. Il jette sur vous la honte. Et la honte, elle va se manifester normalement, si l'on suit les textes, par des boutons. Et celui qui est ainsi frappé par une satire de barde, c'est un paria. Il est rejeté de la société. Donc ça va au-delà de la mémoire, parce qu'il est le détenteur de la tradition. Il devient celui qui assure une forme de justice au sein de la société. Alors, on détourne certes leur esprit en l'en posant par écrit, mais après tout, nous sommes dans des sociétés qui ont aussi posé par écrit leurs lois. Par conséquent, on a fait transiter ce qui est important de l'oral à l'écrit, comme on a fait transiter la coutume de la coutume orale au texte de loi.
Moi, j'ai rien à ajouter, c'était très clair.
Ah, moi, j'adore l'écouter aussi, alors.
Là, c'est une question triple, puisqu'il y en a une pour chacun d'entre vous. D'accord. Chez toi, Jean-Philippe, c'est l'historicité qui est fondatrice. Y a-t-il une place pour le mythe ?
Alors, oui, je revendique vraiment, pour Même pas mort, malgré les recherches historiques auxquelles je me suis livré, je revendique vraiment l'étiquette de fantasy. Et donc, il y a une place pour le mythe. Certes, je me suis beaucoup documenté, mais en définitive, en ce qui concerne la période celtique à laquelle je m'intéresse, qui est le premier âge du fer, c'est-à-dire autour de... Alors, pour reprendre l'expression de Tite-Live, à l'époque de Tarquin l'Ancien, c'est-à-dire autour de 600 avant Jésus-Christ, il n'y a aucune source directe, et les éléments d'information que je rassemble, c'est un gigantesque puzzle dont je n'ai pu rassembler à peu près qu'un quart des pièces, et dans ce quart, il y a à peu près la moitié des pièces qui viennent encore d'autres puzzles. Donc, c'est un puzzle à trous, et en fait, l'imaginaire, le mythe, il vient boucher les trous. Donc, j'essaie de rassembler des informations, je spécule, mais j'invente aussi. Je m'efforce de donner le sentiment du sacré qui aurait peut-être pu être celui des Celtes de l'époque, mais je suis forcé d'inventer de toute manière pour essayer de raconter une histoire, puisqu'on n'a pas de source directe de cette époque-là.
Par contre, chez Cristal, c'est le mythe qui est fondateur.
Oui, le mythe et en particulier justement le symbole. D'autant plus que le livre, en l'occurrence le petit dernier, porte sur les ogames. Alors les ogames, c'est quelque chose de très particulier parce que assez méconnu d'ailleurs ici. On connaît les runes vikings. Hein. Les ogames, je ne vais pas dire que c'est l'équivalent, mais ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire c'est à la fois, ce sont des lettres de l'alphabet, mais comme on le disait tout à l'heure, elles n'étaient finalement pas utilisées de cette manière-là. Ou pour donner des symboles muets, c'est-à-dire on faisait avec les doigts, apparemment. C'est des symboles assez rudimentaires, donc ils se représentent facilement. C'est des entailles, une entaille verticale, des entailles en biais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout le reste. C'est-à-dire déjà, au niveau étymologique, chaque ogame correspond à une essence, bon, ce qu'ils vont dire un arbre. Alors maintenant, arbre, ça peut être le roseau hein, chez eux. Donc, une essence végétale, on va dire. L'essence végétale est elle-même associée à un symbole. Je fais attention, je devrais plutôt dire à des symboles. Mais bon, très souvent, les ogames, on continue d'ailleurs, ça se transmet. Alors voilà, avec bien sûr toute la subjectivité des personnes qui les passent, à les transmettre sous forme de quatrains ou de poèmes, justement pour éviter l'allégorie qui est unilatérale. Le danger serait finalement de dire « bon, ça égale ça ». Évidemment, là, on perd tout l'intérêt du symbole. dès lors qu'on fige. Et pour justement aller dans le sens de ce qui se disait, qui était abscon, qui devait passer par le filtre de l'inconscient, de la subjectivité des locuteurs, etc., il faut laisser le symbole le plus ouvert possible. Alors là, j'allais dire que la difficulté pour moi a été finalement de prendre ça et d'en faire une narration. Donc je me suis basée finalement sur, ça m'a aidée, c'est-à-dire les ogames constituent aussi un calendrier. Donc je me suis basée sur cette histoire de calendrier pour installer mon histoire, qui est aussi une histoire de fantaisie, dans une espèce de cycle. Je ne devrais pas dire un cycle temporel, c'est un cycle atemporel, puisqu'il se passe en fait au niveau de la symbolique. Voilà.
Et toi, Olivier, c'est le détournement du mythe et de l'historicité.
Moi, ce qui m'intéressait, par rapport à druide, c'était justement le mot druide. Quand on pense ou quand on lit druide, on visualise tout de suite un grand barbu tout blanc avec sa serpe et son gui qui pratique des rituels. Et moi, c'était le mot qui m'intéressait et tout ce qu'il évoquait. Et quand je me suis renseigné donc un peu sur les druides, je me suis dit, je voulais en fait écrire une histoire avec des personnages donc puissants, des figures puissantes, pas puissants physiquement. Et le druide avait tout ça. Et après, il y a une dimension écolo dans mon travail qui n'est pas toujours visible. Et j'étais attaché à un espèce de défenseur de la forêt ou à un homme ou une femme qui est très attaché à la terre, aux arbres, à la justice. Et les druides, en fait, avaient tout ça. Tout ce que j'ai su ou appris sur eux, en fait, c'est qu'ils étaient autant conseillers des rois. Je crois même qu'ils parlaient avant les rois quand ils se réunissaient. Et j'ai découvert qu'ils étaient vraiment... c'était peut-être les personnages les plus puissants dans l'Antiquité celte. Après, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai récupéré cette figure puissante de l'homme sage, fort, conseiller, qui est capable de lire dans les étoiles, de faire de la divination, d'ordonner des rituels. Et dans ma façon d'écrire ou de raconter les histoires, après, je crois que ce qui compte pour moi le plus, c'est le spectacle. Je veux vraiment... Enfin, offrir un spectacle le plus divertissant possible. Et je n'avais pas ce respect qu'a Jean-Philippe pour la culture celte. Et donc, en fait, j'ai pris... Alors, c'est facile. Hein, j'ai pris tous les ingrédients qui me plaisaient, qui rentraient dans ce que je voulais raconter. Et donc, j'ai recréé un monde avec des druides qui ne sont pas du tout comme Panoramix, qui sont plus austères, plus sombres, qui sont capables d'être méchants. Pour défendre ce qu'ils estiment être la justice, la nature, et ils ont ce rôle de conseiller. Moi, je leur ai en plus adjoint une qualité d'enquêteur. On fait appel à eux quand il y a un crime abominable et qu'on ne sait pas comment le résoudre. Alors ça, c'est peut-être mes inspirations cinématographiques au nom de la rose ou ça. Et donc voilà. Donc c'est sûr que je me suis servi peut-être de l'essence du druide, mais je l'ai complètement détourné. Je me la suis appropriée et surtout je l'ai fait rentrer dans ce que je voulais raconter.
Oui, tu as introduit pas mal de variations, mais c'est absolument pas contre l'esprit du druide. Même l'enquêteur, finalement, le druide antique, il mène ses enquêtes. Alors, il les mène avec des moyens qui sont des moyens un peu étranges pour nous, voire assez effrayants. Les druides méchants aussi. Hein. Moi, j'aurais pas aimé me retrouver face à un druide en ayant un différend avec lui, parce que ils ont des moyens de divination assez terribles. Hein. Mais en tout cas, c'est compatible avec l'idée du druide. Hein. L'intellectuel, l'enquêteur, tu les as associés aussi à des animaux. Alors, la métamorphose est un motif extrêmement important dans la pensée celtique. Tout ça, ça relève bien d'un imaginaire celtique.
Et il y a même autre chose qu'on ne met pas souvent en avant. Peut-être tu le confirmeras. Et le mot est complètement anachronique. Hein. Mais je crois que c'était quasiment les premiers démocrates du monde. Dans le sens où quand un druide mourait, c'était pas son fils ou son frère qui prenait la place, c'était le plus méritant. Et quand il y avait plusieurs hommes méritants qui devenaient donc le druide à sa place, je crois qu'ils votaient pour dire tiens, qui a mérité d'être le nouveau druide.
C'est ce que dit César. C'est ce que dit César.
Ah, alors, d'accord, je ne sais pas si c'est totalement vrai.
C'est ce que dit. Oh, ouais. C'est probablement vrai. D'autant plus que César a bien fréquenté Diviciacus ou Diviciacus, le grand druide éduin. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que le grand druide de la Celtique était élu. Parfois, les élections se passaient mal. Et dans ce cas-là, oui, les druides étaient départagés par les armes.
Mais c'était le dernier recours. Je crois qu'avant, ils arrivaient à s'organiser.
Et les druides intervenaient aussi dans les combats.
Ah oui, tout à fait. Oui.
D'ailleurs,
les chefs de guerre, oui.
le fameux Diviciacos, qui sera un allié de César pendant la guerre des Gaules, était intervenu quelques années auparavant à Rome. Il intervenait en tant qu'ambassadeur des Éduens, sachant que les Éduens étaient considérés comme les frères de sang des Romains. Il voulait prendre la parole devant le Sénat républicain, mais au Sénat, il y avait une règle qui avait ses raisons d'être, qui était que personne ne devait venir armé au Sénat. Or, les Celtes, hommes d'Europe du Nord, n'assistaient à des assemblées politiques qu'en armes. Donc, il y avait eu une dérogation qui avait été décidée pour ce druide afin qu'il puisse parler devant le Sénat romain armé de sa lance, son bouclier et son épée. Ce qui fait que on a la représentation d'un druide qui n'est pas seulement un intellectuel et un prêtre, hein, mais qui est aussi un héros guerrier. Hein.
Nous sommes maintenant près de la fin, donc je voudrais vous inviter à poser vos questions si vous en avez.
C'est moi le druide,
Est-ce qu'il y avait des druidesses ? Parce que, par exemple, dans la Normance, l'héroïne, elle est druidesse.
Alors, on a plusieurs traces. Alors là, je parle pour notre territoire français. On a plusieurs traces de l'existence soit de prêtresses, soit de druidesses. On a au moins deux auteurs antiques, Strabon, qui dit que à l'estuaire de la Loire, il y a une île où se trouve. Alors lui, il parle de prêtresse. On a un autre auteur latin, celui-là, Pomponius Mela, qui parle aussi d'une île, qui est l'île de Saint, que j'exploite dans mon roman, où il y aurait aussi des prêtresses. Le mot druides, il apparaît plus tard chez les auteurs latins, plutôt à la fin de l'Empire, et c'est pour qualifier des femmes qui jettent des sorts et qui sont plutôt perçues par les latins, mais les latins, les romains à cette époque-là sont déjà christianisés, hein. Elles sont plutôt perçues comme des espèces de sorcières de village. Mais le terme au féminin est attesté en latin, en tout cas. Hein.
D'accord.
Par contre, il y avait des guerrières, beaucoup, et qui combattaient souvent, d'ailleurs, en couple.
Peut-être prenez le micro.
Vous avez évoqué Astérix, et justement, est-ce qu'on sait quelles étaient les sources que Goscinny a pu utiliser pour faire ses propres recherches ? J'imagine qu'il en avait quand même quelques-unes, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il a pu utiliser ?
Moi, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il a lu La Guerre des Gaules, je crois que ça devait être... voilà.
Ah oui, personnellement, je ne sais pas.
Il a priori, oui, ses sources étaient romaines.
On aurait répondu à tout.
Vous évoquez pas du tout le Book of Kells d'Irlande. Je voulais savoir si vous l'utilisiez aussi dans vos sources.
Le livre de Kells.
Kells.
Alors, à ma connaissance, c'est une réécriture de la Bible, mais par contre, c'est sa graphie qui est intéressante. Si je ne porte pas dire de bêtises. Hein.
Au niveau civilisationnel, ça n'a rien à voir.
Non. Par contre, donc c'est pas le corps du livre qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est tout le travail d'entre là, le travail graphique, quoi, et qui effectivement est avec celui de Linsfern, certainement un des plus beaux qui nous soit resté, qui atteste en tout cas de la culture graphique. Mais elle a perduré longtemps après la civilisation celte. Hein. Tout ce qui est graphique, en fait, a poursuivi son chemin après finalement la christianisation des populations, etc.
Ah ben moi, je suis 100% d'accord. Enfin, c'est une vraie inspiration graphique.
Oui,
et on le retrouve même sur certaines couvertures, des fois, ou sur des typographies. Il y a plein d'auteurs aujourd'hui, graphistes, dessinateurs, peintres, qui s'en inspirent pour faire des typographies, pour faire des enluminures.
J'en ai un exemple dans mon livre.
Ouais, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est donc le livre Kells, il est ancré dans notre imaginaire collectif. C'est-à-dire que même si on ne sait pas le nommer, on ne sait pas l'identifier,
fait d'après le livre de Kells.
Et je crois que si on ne le connaît pas, ça touche tout de suite notre imaginaire. Ça évoque tout de suite quelque chose de beau, de positif. Et donc, c'est un matériel qu'il est super à propos d'utiliser, justement.
Ceci dit, on retrouve quand même des choses qui font partie de la culture, comme par exemple, effectivement, l'intérêt pour l'animal. On voit toutes les, la façon dont les lettres sont transformées pour coller à des chiens, à des oiseaux, enfin voilà.
Au niveau de cette esthétique-là, en fait, c'est une esthétique qu'on va se développer à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'esthétique du deuxième âge du fer, qu'on appelle l'âge de l'Athènes, du nom d'une ville en Suisse où on a retrouvé beaucoup de matériel de ce deuxième âge du fer. Et c'est une esthétique très plastique tout en métamorphose qui provient très probablement de l'adoption par les populations celtiques d'un certain nombre de motifs méditerranéens et orientaux, par exemple la palme, le phénix, et puis ils se sont appropriés ça, ils ont refusé l'art figuratif qu'on trouve chez les Latins et les Grecs, et ils se sont mis à faire une esthétique donc plastique, tout en métamorphose, tout en forme. Alors on la trouve au niveau de la métallurgie, beaucoup au niveau archéologique, et puis elle s'est diffusée ensuite dans l'illustration, et y compris dans l'illuminure médiévale par la suite. Oui, tout à fait. Alors, la razzia des vaches de Cooley, qui est le grand texte épique irlandais, alors qui est un texte qui pose problème. Bon, pour résumer, en gros, on a un roi et une reine qui se querellent sur la richesse, et puis cette querelle débouche sur une guerre, et en fait, l'une des nations d'Irlande, les Ulates, vont être attaquées par les autres nations, juste au moment où elles sont frappées par une malédiction, c'est-à-dire que tous les guerriers sont frappés de douleur, ils souffrent en fait de la douleur de la femme qui accouche pendant 9 jours, c'est une malédiction qui a frappé le roi parce qu'il a imposé une course alors qu'elle était en train d'accoucher, et il a imposé à sa femme une course alors qu'elle était en train d'accoucher, et en fait, ils sont tous paralysés, tous les guerriers sont paralysés par cette douleur, sauf Curuline, le grand héros celte, qui va tenir tête à toutes les armées ennemies le temps que les autres se remettent de leur douleur en Gésine. Alors cette grande épopée, elle a été posée par écrit au Moyen-Âge, et c'est un texte qui pose pas mal de problèmes parce qu'il y a un mélange de textes en prose et de textes en vers. Ce qui laisse croire qu'en fait il y avait une tradition orale, la fameuse tradition orale dont on parlait, hein. Et puis cette tradition orale a commencé à se perdre au moment où l'Irlande a été christianisée, et il y a eu sans doute des copistes qui ont voulu sauver le texte, qui ont recopié la partie du texte le plus archaïque qui était en vers, les vers dont ils se souvenaient, ils les ont recopiés, puis le reste ils l'ont écrit en prose ou ils l'ont résumé, et c'est un texte qui est problématique. Alors, qui raconterait une histoire mythique qui remonterait au 2e siècle, il me semble, de notre ère. Mais c'est un texte problématique parce que les gens même, les copistes qui l'ont posé par écrit, ne comprenaient plus tout ce qu'ils recopiaient. Donc on a pas mal de motifs celtiques, hein, dans la razzia des vaches de Cooley, mais on a toujours cette difficulté à percevoir ce qui devait être à l'origine l'épopée initiale, parce qu'elle est déjà déformée par l'incompréhension des copistes médiévaux.
Cet homme-là, c'est tout.
Et sinon, une dernière question. Comment ont été accueillis vos textes ?
Je pense que le mien a été plutôt bien accueilli. Je n'oserais pas dire que j'ai soudoyé le jury. Hein.
Non, mais en même temps, il y a eu beaucoup de télécteurs ont été surpris.
Oui, c'était un vrai risque parce que j'avais fait avant une fantaisie qui était une fantaisie renaissance, bien cynique. Je pense que pas mal de mes lecteurs attendaient, ils me l'ont dit d'ailleurs. J'ai reçu un certain nombre d'ultimatums. Hein. Ils attendaient un autre roman dans le vieux royaume. Et puis, je leur ai fait un bras d'honneur. Et puis, je suis parti dans l'âge du fer celtique archaïque. Malgré tout, j'ai quand même pas mal de retours positifs, plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à davantage de règlements de compte.
Bon, disons que en dépit des aléas éditoriaux du livre qui font que aussi il n'est pas extrêmement distribué, c'est ce qui rend pas facile forcément le retour. Le livre pour l'instant a plutôt été bien accueilli aussi, mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je peux jamais dire si c'est à cause du texte ou de l'image.
Moi, de la même façon, le livre a été, il a été primé quelques fois. Oui, il a été primé quelques fois. Il s'est bien vendu. Il a été réédité souvent. Et je sais pas à quoi ça joue. Le livre est sans doute pas mal. Mais peut-être que cette vibration celtique, justement, qui nous touche tous à divers niveaux, fait que les lecteurs, de façon générale, sont sensibles, au thème, à l'image du druide, au titre du druide. Et donc ça, c'est la première chance de toucher les lecteurs. Et après, si effectivement c'est pas mal, il est bien accueilli.
Vous aviez une question ?
j'avais une question sur la musique. Ça marche ? Une musique sur la question, une question sur la musique qu'on appelle celtique, genre Lorena McKennitt ou Enya. Et, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Moi, je peux essayer de vous répondre. Je ne suis pas du tout spécialiste en musique celtique. J'ai écouté Lorena McKennitt ou des groupes comme... ceux qui chantent Mother Earth, Within Temptation. Et après, des groupes juste qui font des groupes musicaux ou des musiques de films parfois. Je trouve que beaucoup d'auteurs écoutent de la musique sans parole pour écrire. Et donc, c'est des inspirations musicales qui ne nous poussent peut-être pas dans l'écriture, mais qui nous permettent d'y plonger. Où ça nous fait un fond sonore, et avec ce fond sonore, on plonge peut-être plus facilement dans l'ambiance. Après, quant à ce que j'en pense, c'est subjectif. Je vais bien aimer certains morceaux, d'autres un peu moins. Mais je n'ai pas d'avis à proprement parler sur la musique celtique, en sachant que je ne suis pas spécialiste du tout.
Bon, je ne suis pas spécialiste non plus, mais un tout petit peu initiée, parce que je fais de l'art peu celtique. Je ne sais pas, là je vais essayer de parler sur un plan pas subjectif. C'est intéressant de voir que là aussi, il y a une forme de réécriture en ce qui concerne la musique. C'est-à-dire qu'on a, des musiques qui sont dites celtiques, même tardives. Je pense par exemple à O Carolan, en Irlande, qu'on passe souvent... On dit que c'est un dernier barde. Alors c'est, évidemment, ça, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux aussi, parce qu'il était certainement loin de la fonction de barde de l'époque celte. Mais qui a laissé quand même un très très beau répertoire. Et le répertoire irlandais, je suppose qu'il y a eu beaucoup de transmissions à l'oreille aussi, comme il se passe à l'heure actuelle en Irlande, dans la musique qui se joue dans les pubs, c'est une tradition qui est complètement différente d'ici, n'est pas sclérosée. Et donc, quand vous avez une phrase musicale, vous pouvez l'entendre par 10 groupes, elle sera 10 fois différente. Donc, on reste un peu dans cette tradition de la passation directe, même à l'heure du CD, même à l'heure finalement de la réécriture musicale sur partition, etc., etc. Ça, c'est intéressant. Maintenant, pour répondre aux questions, en l'occurrence sur Lorena McKennitt. Lorena McKennitt a commencé au départ à chanter effectivement des musiques du répertoire celte, plutôt irlandais du reste, parce que justement il y a une vivacité de cette tradition. Par contre, elle s'en est vite éloignée. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est quand même plus la musique du monde. Alors, en dehors de choses comme She Moves Through the Fair ou des musiques de genre, il y a quand même beaucoup de choses qui sont matinées, Afrique du Nord. Donc, moi, je la classerais plutôt dans musique du monde ou à la limite New Age. Voilà.
Eh ben, ça va être le mot de la fin. L'heure est arrivée. Merci d'être venu. Et merci.
Merci.